décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 17, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
Semaine 17, JNJFO. Distribution scientifique Linux, c'est la fin après 14 ans d'existence, détail par Jérôme Giannoli.
Alors, vie et mort des distributions, c'est-à-dire l'empaquetage, l'emballage de plein de logiciels qui sont distribués pour être utilisés, eh bien, il y en a une qui vient, en tout cas officiellement, de mourir, une distribution scientifique, comme son nom l'indique, utilisée à Fermilab. Donc, un gros truc important, et effectivement, ben, vie et mort, après 14 ans d'existence, ils arrêtent le développement.
TF1 News, immobilier, on a testé la nouvelle appli qui vous donne les prix de vente réels à côté de chez vous, par Laurence Valdès.
Alors, c'est bizarre de parler de TF1 dans leur vue de presse sur du logiciel libre.
Je crois que c'est la première fois.
C'est pas sûr, mais c'est possible. En tout cas, voilà, ils ont testé une application qui utilise des données qui sont ouvertes et des données liées au cadastre et aux ventes de biens immobiliers. C'est un gros sujet, c'est un sujet important parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, paye son logement. Eh bien, on peut un peu mieux comparer ces prix-là parce qu'il y a des choses qui sont ouvertes. Enfin.
ZDNet France. L'UE vote pour créer une gigantesque base de données biométriques par Catalin Sampanu.
Alors ça, c'est pas cool du tout. C'est le Parlement européen qui a donné un feu vert là-dessus pour constituer une grande base de données. Alors au début, qui ne serait remplie que de touristes, de migrants et autres gens qui sont en train de transiter, ou de criminels aussi. Mais on sait que ça peut assez facilement déborder, devenir une base de données des citoyens, comme il y en a dans d'autres pays, l'Inde par exemple.
La France.
Alors, pas tout à fait, pas encore, mais il y a des choses qui sont...
Déjà, si on a un passeport biométrique ou une carte d'identité, on a pris nos empreintes digitales, la base, elle est là.
Il y a déjà des bases, effectivement. Donc là, ils veulent grossir cela et ça va être une grosse base de données. Un vrai trésor pour les hackers, les boulby hackers qui vont pouvoir tomber dessus. Ça va être terrible.
Le monde informatique. Les licences open source sont-elles aussi importantes qu'avant par Matt Azé?
Donc, ça parle de licences open source dans le sens de licences qui permettent de protéger les développeurs et les entreprises qui développent des logiciels libres. Et justement, il y a certaines entreprises qui ne sont pas contentes parce que leurs logiciels sont utilisés sans que les autres logiciels qui les appellent soient eux-mêmes libres. Et c'est le cas notamment par Amazon. Dans le cadre d'Amazon, il y a une base de données MongoDB qui était utilisée sans que les logiciels d'Amazon soient eux-mêmes libres. Donc ils se sont révoltés contre cet état de fait. Ils ont demandé à utiliser une nouvelle licence. Ils utilisent une nouvelle licence. Ils ont demandé à ce que les organismes qui vérifient les licences libres puissent leur garantir que oui, c'était bien accepté comme une licence libre parmi les autres. Ça a été refusé, en tout cas pour l'instant. Donc il y a une sorte de débat dans la communauté. Est-ce qu'une licence qui ne permette pas à n'importe quel autre logiciel de se connecter peut être libre? C'est un sujet qui est en pleine discussion.
France Bleu, Vendée, le potager extraordinaire vend ses curieux légumes avant de fermer pour l'année par Marc Bertrand.
Alors ça se passe à la Motte à Chars, on parle vraiment de tout et n'importe quoi aujourd'hui dans la revue de presse. C'est intéressant parce que il parle de légumes innovants, notamment des tomates bleues qui sont libres. Tout le monde va pouvoir les reprendre et les replanter.
Je pensais que ça allait nous sortir des légumes digitaux.
Numériques, il faut voir. En tout cas, voilà, il y a des choses intéressantes. C'est extraordinaire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de bosser de manière intelligente et de répandre les informations qu'ils sont en train de mettre au jour.
Cori, lexiconomie, le dictionnaire en ligne qui privatise le langage, par Thibaut Prévost.
Alors, c'est un projet absurde. C'est directement dans le chapeau de l'article. En gros, une sorte de dictionnaire qui vous propose d'y remplir tous les mots que vous voulez protéger, vous voulez indiquer qu'ils sont vos mots, et ensuite, eh bien, si quelqu'un veut les utiliser, soi-disant, il faudra payer, dans le cadre de dictionnaire en tout cas. Donc c'est fait pour être absurde, hein, et pour montrer un peu l'ineptie d'un droit d'auteur qui irait partout.
Forbes France. Que savons-nous de Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, par Olivier Bossard?
Alors je vous réponds tout de suite, on ne sait pas grand-chose. Donc,
Mais c'était pareil la dernière fois.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Forbes, donc il y a vraiment plein de gens intéressants dans la revue de presse aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Donc Forbes se pose la question parce que ce gars-là, il est milliardaire, mine de rien. Il a miné les premiers bitcoins qui ont jamais existé. Et ces premiers bitcoins, aujourd'hui, ils ont des valeurs considérables. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ces premiers bitcoins n'ont pas encore été utilisés. Ça se trace, hein, ça, on peut le voir normalement. Il est même possible qu'il soit mort, le gars, on ne sait pas trop.
Sur les premiers bitcoins, il avait quand même même dit qu'il avait détruit la clé privée et qu'il protégeait ces bitcoins-là, justement parce qu'il voulait pas spéculer dessus. Alors, on n'a que sa parole, hein, on ne sait pas ce qu'il a fait en réalité, mais normalement, ceux-là sont perdus à jamais.
On n'est pas sûr qu'il existe. Peut-être un collectif, on n'en sait rien. Très bien. On parle de quoi cette semaine ?
Ben, on va parler de qualité logicielle.
La qualité, mais oui, c'est important. Toucher ce logiciel, c'est de la bonne qualité. Allez-y, regardez. Non ?
Il est mûr, mon logiciel, il est mûr.
C'est quoi la qualité ? Parce que ça ratisse large, cette notion.
Ben, pour moi, la qualité, c'est ce qui va permettre à un logiciel déjà de fonctionner correctement. C'est le minimum qu'on lui demande. Hein. Donc, de répondre aux besoins, de faire ce qu'on attend de lui. Il y a aussi la partie maintenance, qu'on soit capable, en cas de problème ou autre, de comprendre comment ça marche et de le réparer relativement vite et pas de se dire bah, ça marche plus.
Il faut qu'il soit performant. Sécurisé, faut pas qu'il fasse fuiter les données à tout et n'importe qui, en tout cas pas aux gens destinés.
Ça va, c'est bon, hein. On va pas nous tomber dessus. Hein.
Et il y a aussi besoin d'évolutivité, parce qu'un logiciel s'est amené à changer dans le temps. Donc si on a besoin de rajouter quelque chose et qu'il faut tout péter, bah c'est pas un logiciel de qualité.
Traçabilité, donc il faut être capable de voir ce qui s'est passé dans le logiciel au fur et à mesure du temps.
Comme la viande.
Voilà. Exactement, c'est la même idée. Il faut qu'il soit autant que possible résistant aux pannes, parce que les pannes, il y en a. Un disque dur qui tombe, eh bien oui, il faut qu'on puisse le récupérer. Et un logiciel de qualité, il est capable de se remonter, de continuer à fonctionner malgré tout.
Et après, il y a plein d'autres possibilités. Hein. On vous invite à voir la page Wikipédia qui en énumère une litanie de critères de ce qui fait un logiciel de qualité ou pas.
Ok, bah merci Nicolas, on arrête l'émission. Dans un projet informatique, il y a ce qu'on appelle un plan d'assurance qualité. Il y a des gens qui ont des formations, c'est un métier apparent. Qui s'appellent voilà, des qualiticiens, des qualiticiennes. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement ?
Des gens qui remplissent de la paperasse.
Je sens la critique poindre.
Oui, alors moi je suis un très mauvais exemple parce que je fais surtout du script dans le cadre de la recherche. Donc moi des logiciels je n'en vends pas.
Donc voilà, mais non, il peut y avoir de la qualité de n'importe quel projet en disant on veut tous les critères que vous avez listés, on veut s'assurer que ça se passe comme ça et donc on va se donner les moyens de développer le plus proprement possible et le plus efficacement possible.
Alors j'aurais tendance tout de suite à dire il y a la bonne qualité et la mauvaise qualité.
Ouais, ça je le sentais.
Bah, la bonne qualité c'est...
Vas-y.
Non, il y a la bonne qualité qui est la qualité que nous, en tant que technicien, on va plutôt apprécier, qui est la qualité vraiment technique qu'on est capable de mesurer pour le coup. Il y a vraiment des outils qui permettent de mesurer si un code est complexe, pas complexe, maintenable, évolutif. Ça va être compter le nombre de lignes, compter le nombre de méthodes ou de fonctionnalités dans un logiciel. Et ça permet de savoir si un logiciel est maintenable ou de bonne qualité. Quelque chose qui va être rempli avec des fichiers qui font des 10 000 lignes, 100 000 lignes, ça ne saura même pas le relire au bout d'un moment. Donc ça, c'est des métriques qui sont techniques, qui sont mesurables, qui sont automatisables. On est capable, à chaque fois que quelqu'un va changer quelque chose, de recalculer tout ça et de voir si on évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et de réagir en conséquence, quitte à faire ce qu'on appelle la refactorisation, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a de la dette technique ou une qualité pas assez correcte, et donc on va modifier le code sans ajouter de fonctionnalité, mais juste en améliorant la qualité, faciliter la maintenance, etc.
Après, quand tu parles du nombre de lignes, après, il faut aussi voir que c'est aussi en fonction de la complexité du projet et du besoin du logiciel. Un logiciel comme GIMP ne va pas avoir le même nombre de lignes qu'un logiciel comme Blender, par exemple.
C'est pour ça qu'on calcule ça par rapport au nombre de classes ou une méthode. On s'en fout un peu de la quantité de lignes au global sur le programme. Effectivement, une centrale nucléaire aura certainement plus de lignes, ou un Boeing, on en parlera certainement plus tard, a plus de lignes qu'un éditeur de texte lambda. Mais si on se retrouve avec une fonction qui a 100 000 lignes, on aura certainement un problème quelque part.
Alors, on a constaté des grosses évolutions dans ce qu'on considère comme les procédures de qualité. Il y a encore 15 ans, l'essentiel de la qualité se faisait par des procédures papier bien décrites en amont avec ce qu'on appelle l'ISO 9001.
La fameuse ISO 9001.
Ouais, l'enfer. Alors, le truc a constitué des armoires de paperasse tamponnées.
Ça existe toujours.
C'est toujours là et bien ancré. Hein, pour encore très longtemps.
Personne n'a vraiment envie d'en faire, en fait, à part les qualiticiens, qualiticiennes.
Oui, c'est un métier. Après, moi, dans mon expérience professionnelle, j'étais dans une boîte où on cherchait à obtenir ce truc ISO ou machin, parce que ça permettait de gagner des appels d'offres.
Alors j'aurais tout de suite tendance à te sauter dessus à pieds joints en disant mauvaise qualité, et c'est cette mauvaise qualité que je n'apprécie pas du tout, et je pense qu'on est plusieurs autour de la table, qui se base sur l'apparence, la mise en forme. Est-ce que ça a l'air de suivre les bonnes procédures ? Est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont là ? Est-ce que tu étais à ton bureau à la bonne heure, bien habillé, que tu as dit « oui, merci, patron, au bon moment » C'est vraiment donner l'apparence extérieure, mais en fait, ça ne montre pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Est-ce que le logiciel va vraiment être de qualité ?
Concrètement, ça consiste en quoi, cette apparence de qualité ?
C'est remplir des procédures, en fait, qui sont là soi-disant pour garantir la qualité. Un exemple que j'aime bien donner, c'était un cahier des charges qui avait été rédigé dans mon ancienne entreprise. Ça fait 1200 pages, hein, c'est un truc imbouffable, etc. Mais il fallait absolument que ce soit signé par le client, le responsable de projet, le chef de projet, le développeur, qui ait tous les tampons, y compris la qualiticien, justement, et qui ait tous les tampons dessus. Et que la spécification soit correcte ou pas correcte ou complexe ou incohérente, ou on s'en foutait complètement. Ce qu'ils voulaient, c'est la première page. Vous devez y avoir le joli titre, les jolis numéros, avec la bonne référence enregistrée dans la base de données, avec la signature. Et ça, c'était super important. Mais la veille de l'audit, quand on se rendrait compte qu'il manquait la signature du chef de projet, et ben on courait vers son bureau en lui disant « signe là, vite, tout de suite !» Parce que demain, dans l'audit, on avait l'ISO 9001 à la fin, et la procédure n'avait pas du tout été respectée, le truc était incohérent au possible, et le logiciel n'a jamais été livré et ne fonctionnait pas. Donc mais on avait ISO 9001.
Donc en fait, tu es juste en train de nous dire que si on a un beau document avec une belle couverture, pleine de paillettes et d'arc-en-ciel, et que ça pétille de partout, il faut se méfier.
Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, on sera ISO 9001. Et c'est pour ça que d'autres normes se sont créées qui ont tendance à éviter la paperasse et à s'intéresser vraiment au fond et est-ce que la doc ou a été correcte et que de vérifier que ce qu'on a signé est correct et c'est pas juste la signature qui fait qu'on est, on est conforme ou pas.
Effectivement, des exemples hein, avec des trucs où il y a la norme et où il y a le tampon et où ça marche très mal, il y en a plein. En dehors de l'informatique également, puisque l'assurance qualité n'est pas une spécificité de l'informatique. Moi, personnellement, j'ai eu des embrouilles avec un fournisseur d'énergie. Ça a duré 8 mois, ils étaient pourtant avec la norme machin. Et à la fin, ils m'ont donné de l'argent, parce que je suis allé voir le médiateur de l'énergie, et c'est eux qui m'ont filé du pognon. Donc c'est dire à quel point on était loin.
Alors, on peut aborder un cas récent qui a touché des dizaines et des centaines de vies. Bah, le cas de Boeing, où là, il y a des processus qualité qui sont drastiques. En tout cas, c'est ce qu'on en pensait.
Dans l'aviation, c'est censé être très très poussé.
Et là, il y a de la paperasse, et c'est des paperasses qui sont maintenues pendant des dizaines d'années. Qui sont stockés et vérifiés. Mais pour le coup, il y a eu, dans la procédure du dernier Boeing, des aléas enfin, qui sont devenus criminels. Notamment, les tests faits par Boeing auraient dû être faits par le FAA, l'administration américaine qui s'occupe de l'aviation. Federal Aviation Agency, oui, probablement.
Un truc du genre.
Il semblerait que cette agence n'avait pas de moyens et le temps de vérifier et de valider tout, et a demandé à Boeing d'auto-valider les éléments de l'avion.
Sur cette histoire, on en parle pas mal hein, dans l'actualité aujourd'hui, et on en apprend des nouvelles un petit peu, voilà, peu toutes les semaines. C'est un cas intéressant parce que Boeing a une pression économique forte. Le 737, c'est un avion qui est d'un design assez ancien, plus vieux que la 320 qui est son concurrent chez Airbus.
Mais la 320 vient d'avoir une nouvelle version qui vient de sortir.
La 320 Neo qui a des moteurs beaucoup plus performants, mais d'un diamètre plus important. Le 337 est un avion qui est très bas sur pattes, et donc du coup, mettre des moteurs de plus gros diamètre, c'est pas possible. Il n'y a pas la place.
Enfin, c'est pas possible, sauf...
Sauf à changer complètement la façon de les coller à l'aile, mais ça change l'équilibrage de l'avion. Et donc, ils ont mis, vous en avez sans doute entendu parler, des systèmes pour compenser ça et faire baisser le nez de l'avion en cas d'attitude anormale.
Alors, c'est un système qui s'appelle MCAS, on va pas donner l'acronyme, hein. C'est peut-être pas la peine d'aller là-dedans.
Alors, sans entrer dans tout le détail de qu'est-ce qui s'est passé, etc., Boeing avait cette contrainte de vouloir coller aux fesses de son concurrent, et donc de faire comme lui, c'est un, sortir cet avion plus performant, qui consomme moins, deux, le sortir en disant que c'est un avion qui ne nécessitait pas d'entraînement supplémentaire pour les pilotes, parce que ça coûte beaucoup d'argent, ce que la 320 Neo faisait. Et en plus de ça, ils ont poussé la cupidité encore plus loin, c'est-à-dire que ce système est invisible pour les pilotes, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas informés.
C'est-à-dire qu'en gros, ils ont rajouté dans leur avion un système informatique qui allait compenser le déplacement du moteur.
Et ils n'en ont pas parlé, ils ont dit, puisque ça se pilote tout pareil, il n'y a pas besoin de les informer. Et ça a été jusqu'au point où il y avait un système d'alerte qui pouvait lancer une alarme dans certaines circonstances. Et a posteriori, on l'a appris aujourd'hui, ils ont décidé de désactiver ce système-là en disant on va plutôt le vendre en option. Donc on a un peu plus de 300 morts à cause de leur connerie. La FAA a perdu de la crédibilité dans l'affaire parce que normalement, au niveau international, c'est l'autorité ultime là-dedans. Tout le monde les regarde de travers en disant bah, en gros, vous avez favorisé votre constructeur national qui est à la ramasse, ce créneau d'avion-là. Quoi.
Bah, quelque part, ils ont un peu fait confiance, sauf que bah, là, ils ont un petit peu mis la sécurité en option.
Oui.
Bah, ça fait partie du fameux théorème qui dit qu'entre qualité, coût, délai et fonctionnalité, il faut faire un choix et on n'aura pas tout. Et là, bah, ils avaient fixé les fonctionnalités parce qu'il fallait que le moteur rentre dans l'avion. Ils ont fixé les coûts parce qu'ils voulaient avoir le même coût que le concurrent.
Ils ont fixé les délais parce qu'il fallait vendre l'avion tout de suite.
Et bah, il ne restait plus qu'un seul truc à sacrifier, c'était la qualité. Et puis, bah, on voit bien le résultat à la fin.
La qualité et la sécurité.
Ça en fait partie. Alors, pour le coup, oui, on pourrait dire que la FAA a fait confiance bien à tort. C'est ce qu'on appelle la capture du régulateur. Et donc, le régulateur ne travaillait plus à l'encontre des gens qui étaient régulés, ils travaillaient pour les gens régulés. Et ça arrive dans plein de domaines, on a pu le voir dans l'automobile, par exemple.
Bah, y avait cette vieille histoire de Renault avec les premiers régulateurs de vitesse, où il y a eu des accusations comme quoi les bagnoles partaient à fond et on ne pouvait plus les arrêter. Ça a été très compliqué de savoir ce qui s'est passé en vrai, puisque Renault a nié.
Tu n'as aucune preuve. Il n'y a pas de preuve.
Alors, moi, je peux faire circuler une rumeur. C'est que j'ai un très vieil ami qui bossait dans le milieu de l'automobile et des tests de bagnoles, etc. Et qui m'a assuré qu'effectivement, le régulateur de vitesse ne marchait pas. et que le machin avait été gentiment étouffé le temps de mettre à jour toutes les bagnoles. Mais ce n'est qu'une rumeur.
Oui, donc pendant tout ce temps, on disait aux gens qu'ils ne savaient pas s'en servir.
Voilà. Donc dans le cas de Boeing, on n'a aucun doute sur le fait que Boeing a des procédures qualité dans tous les sens, que c'est des gens hyper sérieux, qu'ils ont de l'ISO 9000, 12000, je ne sais pas combien, jusqu'à combien on peut monter.
Ils font ça sur le long terme.
Hein. Voilà. Et pourtant, on voit que ça foire, ce qui démontre que si on n'a pas envie, on peut mettre toutes les procédures du monde, ça ne résoudra pas le problème.
On aura la forme, mais il manquera le fond.
Et donc en conclusion, qualité logicielle, oui, non, bonne ou mauvaise idée?
La bonne qualité, oui, la mauvaise qualité, non, quoi. Faites pas de la paperasse juste pour de la paperasse.
Voilà, exigez pas nécessairement aussi tous ces machins de normalisation en pensant que ça va vous protéger de quoi que ce soit. Donc éventuellement, on va dire, ah ouais, non, mais moi j'avais demandé le meilleur, ils étaient ISO, donc je pouvais pas savoir que ça allait mal marcher. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est des gens qui se cachent derrière des étiquettes et des marques, et il faut mettre le doigt dedans, et on voit que l'humain est important. C'est pour ça que nous, on s'intéresse au libre, c'est que c'est du logiciel où il y a de l'éthique, où il y a de l'humain.
Et tout est une question de bon sens au final.
Sur ce, à la semaine prochaine.
Et oui.
Bonne semaine à
tous.
Salut.